Merci d'être des nôtres à Boulevard 102.1 C Gravel dans le retour. On vous abandonne pas pendant les fêtes, loin de là. Plein de belles programmations spéciales. On a le Gravel du temps des fêtes, entre autres choses, avec un paquet de collaborateurs, un paquet de chroniqueurs, le retour de Pierre Houd. Ce sera un rendez-vous. On vous présente ça le 24 décembre et le 1er janvier 2026. Jeff Fortin, Pascal CV et Mathias Turcotte seront présents live pour l'actualité Ne prend pas de congé. Max va être là avec son point de Max également. Vous allez avoir les meilleurs moments de Gravel dans le retour, c'est-à-dire des bouts où Audrey raconte sa vie. Pour le meilleur et pour le pire.
Hey, tu sauras qu'il y a une couple de moments où tu es en vedette, mon Denis.
Il y en a. Il va falloir que je les réécoute. Nos meilleurs podcasts également et toujours le meilleur rock qui va reprendre ses droits et les fins de semaine et pendant la programmation des fêtes. Et n'oubliez pas, on va être de retour dès le 5 janvier sur les routes Audrey.
Il y a des problèmes dus au démantèlement de grues qui paralysent le boulevard Charest depuis ce matin. Il y a juste une voie en direction ouest qui est ouverte. Les automobilistes qui circulent en alternance sur cette voie-là. Je vous lis ce que le service de police de Québec nous a envoyé là, en ce moment au ralenti sur le boulevard Charest-Est. Travaux entre la rue Dupont et Monseigneur Gauvreau jusqu'en fin d'après-midi. Donc, comme je vous disais, circulation en alternance. Peut-être prévoir d'autres itinéraires si c'est possible. Je regarde la carte capitale direction Est, pas terminée entre Henri IV et Laurentienne. Ça s'étire quand même pas mal. Ouest, c'est entre Bourg-Royal et Laurentienne que ça se passe. Si vous êtes sur Robert Bourassa, direction Nord, c'est concentré à la hauteur de Wilfrid Hamel, Henri IV Sud de Chemin Sainte-Foy au pont La Porte en ce moment, assez au ralenti. Sinon, ça se passe sur la rive sud, c'est surtout la 20 ouest dans le coin de Chemin des Îles, mais rien pour appeler sa mère là. Si vous voyez autre chose, gênez-vous pas, c'est le 88-971-1021 texto. Peut-être ajouter Capitale Est, hauteur, boulevard Saint-Jacques, voie de droite bloquée, véhicule lourd en panne.
Si le premier ministre était satisfait d'avoir réglé et d'avoir eu une entente avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, ce n'était pas le cas de Christian Dubé, ex-ministre de la Santé.
Oui, Christian Dubé qui a confirmé par l'intermédiaire de ses médias sociaux qu'il quittait la CAQ, qu'il quittait son poste de ministre, qu'il siégerait comme député de la Prairie, donc comme indépendant. On imagine que ça risque d'être jusqu'à la fin de son mandat parce que lui s'était engagé à peut-être pas de se représenter à la prochaine élection, mais à tout le moins de faire son mandat au grand complet. C'est la réforme qui se trouve au cœur de la loi 2 qui semble être la mésentente entre lui et le gouvernement caquiste, alors que pendant des semaines, il s'est promené en disant que c'était essentiel de revoir le mode de rémunération des médecins et que François Legault, lui, s'est entendu avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, justement en ajustant le tir par rapport à tout ça. Donc, Christian Dubé, qui, pour être cohérent, dit qu'il juge ne plus être la personne pour poursuivre cette réécriture-là, tout en restant fier de ses réalisations accomplies. Christian Dubé devient ici le 9e député indépendant à l'Assemblée nationale. Juste pour vous faire des parallèles, là, le Parti québécois a 6 députés, Québec solidaire en a 11. Ils sont 9 indépendants maintenant au moment où on se parle.
C'est en train de changer.
Disons qu'il peut se passer bien des belles choses en 2026.
Et ces gens-là, est-ce qu'ils vont rester indépendants en 2026? Est-ce qu'on va rebrasser les cartes avant l'élection? Ça va être à suivre, évidemment. Elle fait partie de ces nombreux et précieux collaborateurs qui ont la gentillesse et la générosité de nous accompagner pour notre gravel du temps des fêtes.
Yes!
Nancy Doyon, SOS Nancy, coach familial. Salut!
Salut, salut!
Tu vas venir nous rejoindre pendant le temps des fêtes pour le gravel du temps des fêtes.
Mais bien sûr!
Génial. On va parler du guide parfait pour gâcher le Noël des enfants.
Oui, c'est ça. Quoi ne pas faire avec nos enfants dans le temps des fêtes.
Oui, puis là, nos enfants, ils font parler pas mal hein, cette semaine avec l'histoire des buttes de neige. Puis là, j'ai vu que dans les médias, il y en avait rajouté ce matin. Puis de ton côté, tu as eu beaucoup de témoignages. Nous autres aussi, d'ailleurs, là, ça déboule. Puis on dirait que les parents... sont tannés de voir que de plus en plus on immobilise nos enfants. Là.
Bien, c'est ça, l'histoire des buts de neige, je pense, a fait ressortir le fait, puis j'ai écrit un texte là-dessus cette semaine qui a amené 1 million de vues. Là.
Ouais.
Mais tu sais, ça fait ressortir le fait que dans les écoles, nos enfants sont de plus en plus restreints dans plein d'affaires. Tu sais, il y a des interdictions dans les cours d'école, puis là, attention, là, c'est pas toutes ces interdictions-là qui sont dans toutes les écoles.
C'est des exemples indépendants
oui,
les uns des
ça.
Autres. Là,
mais il y a quand même des affaires qui sont vraiment intenses. Là. Bon, il y a les buts de neige, mais il y a, bon, interdiction de jouer dans la neige, interdiction de jouer à la tag. Moi, j'ai vu, de mes yeux vus, une école où les enfants n'avaient pas le droit de courir dans la cour de récré, pas le droit de faire la roue. Pas le droit de chamailler.
Pas le droit d'être un enfant, finalement.
Écoute, et là, ça fait quelques fois qu'on me rapporte que dans certaines écoles, on demande aux enfants de circuler à quatre pattes la cour d'école quand il y a de la glace par terre.
Mais voyons.
Là, il va pleuvoir, là, puis ça va tourner en glace. Là. Bien, il y a des écoles où les enfants vont être obligés, n'auront pas le droit de se mettre debout. mais sinon, on m'a parlé de pas le droit de ramasser rien par terre, ni de la neige, ni une branche, ni un morceau de ni une pierre. On m'a parlé de une école où les enfants ont pas le droit de prendre la neige, puis tu sais, de la faire coller sur le mur de briques. Là.
Mais là, voyons donc, c'était une de mes activités préférées quand
j'étais jeune. On faisait de l'art abstrait avec ça, nous autres.
Oui, c'est ça. Puis écoute, c'est ça, pas le droit d'utiliser les balançoires l'hiver, pas le droit d'utiliser les modules de jeu l'hiver. Semblerait que ce serait trop glissant, trop dangereux. Et ça, c'est un paquet de règles dans la cour d'école qui semble motivé peut-être par la surprotection.
Hein? Ben là, c'est là. On a jasé de ces histoires-là dans le Pit Stop cette semaine. Uh-huh. Puis moi, je me suis fait l'avocat du diable, puis j'ai été le fatigant, là, mais... C'est notre faute, ça. C'est la faute des parents. Là. Mon petit prince s'est fait mal. Je vais poursuivre l'école. Je vais poursuivre la famille de l'enfant qui l'a poussé en bas de la butte. Je vais poursuivre la plaque de glace. Je vais poursuivre le concierge.
Je pense qu'en grande partie, oui. Tu sais, que c'est en lien assez direct avec les parents qui ont porté plainte. Puis là, ben, tu sais, il n'y a pas si longtemps, on avait vu une nouvelle où il y avait une augmentation de parents qui poursuivaient les écoles pour toutes sortes d'affaires farfelues.
Ouais.
Donc, effectivement, les compagnies d'assurance mettent de la pression sur les écoles pour dire, ben, assurez-vous qu'il n'arrive pas d'accident. Je pense que oui, il y a une partie de ça, mais il y a aussi une partie qui est liée, puis je l'ai vu, tu sais, dans ma pratique, qui est liée à, ben, on a moins de surveillants dans les cours de récré,
oui,
parce qu'on manque de staff.
Manque de personnel.
Et, ben, on va essayer de s'organiser pour qu'il y ait le moins de chicanes possible. Donc, au lieu de prendre le temps d'enseigner aux enfants la résolution de conflits, ben, on enlève tout ce qui peut créer des conflits. Moi, je me souviens de ma fille à une époque, il y a quelques années, elle a trippé à jouer au ballon-point dans le cours de récré. Mmh. À un moment donné, elle revient toute déçue. Elle dit « Maman, ils ont enlevé les ballons-points.
Ouais. »
Oui, mais comment ça? Ah, ben parce que ça faisait de la chicane.
Mmh.
Puis là, ils se sont mis à jouer à un autre jeu. Ah, mais ils l'ont enlevé ça aussi parce que ça aussi, ça faisait de la chicane. Pas le droit de faire des phares. Tu sais, les phares là, oui, dans le cours de récré.
Oui, oui.
Pourquoi? Ben parce que ça crée de la chicane.
Oui, mais apprendre à gérer des chicanes dans une cour d'école, moi, dans ma tête, ça fait partie des apprentissages scolaires.
Ben, c'est ça le problème.
Quand tu sais, t'as tes frères et sœurs, c'est une affaire. Mais des enfants qui font pas partie de ta famille, d'apprendre à gérer ça.
Exact. Apprendre la tolérance, apprendre l'affirmation de soi, apprendre la résolution de conflits, apprendre la résolution de problèmes. Puis même, au niveau de la sécurité, ben, les enfants, quand on enlève tout ce qui peut être potentiellement dangereux pour eux, ben, ils développent pas non plus le sens des responsabilités puis la juste évaluation du danger. Bon. Attends, j'en ai d'autres, des règles. Pour
ouais, vas-y, attends, parce que je sais que c'est pas juste dans le cours d'école, hein, parce que s'il y avait des choses... Moi, je me souviens, à un moment donné, tu sais, on empêche les gens de jouer à l'extérieur, mais on empêche les jeunes de jouer à l'intérieur aussi.
Exact.
Moi, je suis de l'époque où on a arrêté de jouer au hockey pour au baseball. En fait, nous autres, ce qu'on disait, c'est qu'on enlevait tous les sports, le fun à l'éducation physique.
Exact.
Parce qu'il y avait eu des blessures.
Il y a des blessures, puis là, ben, après ça, maintenant, t'avais eu la tangente vers... ça prend des sports collaboratifs, hein, pas de compétition.
Ben non.
Parce que il y a des gagnants parachute et des perdants, puis les perdants, ben, ils ont de la peine.
Tout le monde gagne.
Oui, c'est ça.
Fait que tout le monde perd.
Là, c'est un peu moins ça, mais faut que j'en nomme d'autres, des belles règles là, qui sont assez farfelues et malheureusement un peu trop répandues.
Amusons-nous.
Dans plusieurs écoles et de plus en plus d'écoles, les enfants sont obligés d'être en silence dès qu'ils mettent le pied dans l'école jusqu'à ce qu'ils sortent de l'école. Donc, tous les déplacements, l'habillage, déshabillage en silence total. Et si tu chuchotes avec ton voisin ou si tu rigoles en y faisant des faces, ben tu risques de perdre des points sur ton système d'émulation.
Ils leur font-tu porter une petite voilette aussi?
Il y a des écoles qui vont encore un peu plus loin où les enfants doivent dîner en silence.
Mais là, franchement...
Et attends,
comme des monastères.
C'est ça. Ils doivent dîner en silence. Ils n'ont pas le droit non plus de faire de signaux à leurs camarades, ni de rire.
C'est donc bien triste.
Et dans certaines écoles, pour pouvoir gérer ça, ben les enfants ont des places fixes, mais ils s'assurent qu'ils sont placés avec pas leurs amis. Et j'ai une école où les enfants sont placés deux par deux.
Je pense que les forces armées sont moins pires.
Ben écoute, moi, je me dis, quel adulte accepterait que dans son milieu de travail, à l'heure du dîner, ils doivent dîner en silence complet? Tu sais, moi, à part ceux qui travaillent au monastère des Augustines, je vois pas, là.
C'est...
Je veux dire, c'est comme... Voyons que tu... Silence complet à tous les midis, là. C'est pas un midi qui... En guise de sanction parce qu'il s'est passé quelque chose. C'est pas une fois... Tu sais, bon, il y a certaines écoles qui disent, bon, ben là, on va faire le silence, puis après ça, on va se mettre... Tu sais, quand on a du silence, on se met à manger.
C'est parce que si tu veux que ton enfant soit concentré en classe, il faut qu'il dépense son énergie quelque part.
Ben oui. Ben voilà. Et là, attends un peu, je t'en donne d'autres. Il y a l'énergie, là. Mais après ça, il y a pas le droit d'avoir... Il y a des écoles qui ont interdit les costumes d'Halloween cette année.
Oui, c'est vrai.
Hein? Pas le droit de costumes d'Halloween. Pas le droit de porter des vêtements à l'effigie d'un super-héros.
Oui,
c'est
non.
Violent, des super-héros.
Mm-hmm. Ouais.
Quoi?
Ah oui.
Ouais. Attends un peu, j'en avais d'autres.
Dans le temps,
ils ne voulaient
pas qu'on mette des vêtements avec une tête de mort.
Mais ouais. Les masques, nous autres, c'était interdit. Mais tu sais, tu pourrais
ça, c'est de la sécurité, souvent.
C'est
hein?
Ça, c'est ça.
Pas le droit de maquillage. Des petites filles de sixième année qui ont des sanctions parce qu'ils se sont mis un petit peu de mascara. Ça, j'ai vu ça aussi. Ah oui, dans plusieurs écoles, ils ont des dates auxquelles les enfants doivent porter le manteau attaché, le cache-cou et une tuque jusqu'à telle date. Mais vous savez comme au printemps, que des fois, au mois d'avril, il fait 19
ben
degrés.
Oui.
Mais si la date n'est pas arrivée, ils n'ont pas le droit. Une règle qui est très courante, c'est si ton parent t'a envoyé le matin avec des vêtements, ben à chacune des récréations, tu vas porter tous les vêtements. Parce que, ben, tu sais, on s'entend, là, au printemps et à l'automne, là, des fois, le matin, il fait froid, fait que tu y envoies un manteau, puis des fois, des petits gants de laine, puis là, dans l'après-midi, ça se peut qu'il fasse 22. Ah, ben non, si ta mère t'a envoyé tes gants de laine, faut t'y mettre l'après-midi, même s'il fait 22.
Même s'il fait chaud, ah, ben oui, c'est brillant.
Ça aussi, ça doit être en lien, par exemple, avec des parents qui ont réagi.
Ben, c'est ça qui... Parce que t'as des parents qui réagissent... qui créent ces règles-là, mais de l'autre côté, t'en as autant, sinon plus, qui réagissent avec colère quand on fait des listes comme ça de toutes les règles qui marchent pas.
Ben t'sais? Oui, c'est ça. Et là, tu, je vois, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'écoles qui plient face à 3, 4, 5 parents
plus
surprotecteurs
ouais.
dans l'école et qui mettent des règles pour ça. Mais c'est pas vrai qu'il y a juste les parents, là. Il y a aussi beaucoup de règles. Tu sais, la règle du silence sur l'heure du midi, c'est pas des parents qui ont demandé ça, là.
Quoi, c'est des surveillants qui sont pas patients, changent de job?
Il n'y en a pas assez.
Ben moi, je pense qu'effectivement, il n'y en a pas assez. Je pense que, ben c'est vrai que c'est bruyant, là. J'ai travaillé dans un service de garde, là. C'est vrai que c'est bruyant sur l'heure du midi, puis que ça bouge, puis que c'est un défi que de garder un minimum de contrôle, tu sais.
Oui,
dans...
mais les enfants sont pas devenus bruyants en 2025.
Non,
ben, quand
non,
tu choisis ta carrière
ça,
en partant,
c'est
là.
Ben c'est ça, tu sais. Puis les services de garde, ben sont nés. T'sais, ça fait quoi, une trentaine d'années, une vingtaine, trentaine d'années. Mais tu sais, à quelque part, ces enfants-là, il faut qu'ils puissent parler. Sauf que, bon, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est compliqué. Puis je pense aussi qu'il manque de formation. Je pense que les intervenants scolaires, tu sais, il y a un gros roulement présentement, et il manque de formation sur la gestion de groupe, sur l'encadrement des jeunes. Fait qu'à un moment donné, ben, on va aller vers le contrôle. C'est bien plus facile. On évite. Tu sais, moi, j'avais une directrice qui me disait, ben, depuis qu'on a installé le silence total partout, on s'évite tellement d'interventions. Ouais, mais tu réalises pas, choupinette, que, un, tu nuis au développement de l'enfant.
Moi, oui.
Hein, tu sais, je veux dire, c'est, des enfants, ça a besoin de s'exprimer, ça a besoin de bouger, ça a besoin de grouiller. Deux, ben, tu sais, dans le fond, tu restreins à court terme, mais tu sais, chez les enfants, moi, ma clientèle, c'est des enfants troubles de comportement.
Mm-hmm.
Des enfants qui ont été TDAH, des enfants qui, tu sais, des modèles
un peu plus turbulents, là.
Oui, c'est ça. Bien, ces enfants-là, ils n'y arrivent pas, là.
C'est sûr.
Tu sais, je veux dire, ils ont de la misère à rester relativement calmes en classe puis à faire leurs travaux. Fait quand, en plus, il faut qu'ils s'habillent, qu'ils se déshabillent en silence, qu'ils mangent en silence, puis que dehors, s'ils vont se faire chicaner, s'ils donnent un coup de pied sur une motte de neige, bien, tu comprends bien que ces jeunes-là sont tout le temps pris en défaut.
C'est ça qui est injuste, Nancy, c'est qu'on règle des problèmes de surveillance ou de personnel, mais c'est des problèmes qu'on pitche dans le cours des enfants.
Ben oui, c'est ça.
On crée des problèmes pour l'enfance puis le développement des enfants.
Exact. Fait que, tu sais, puis là, moi, mes jeunes se font chicaner tout le temps. Fait que comme ils se font chicaner tout le temps, ils sont tout le temps, tu sais, des sanctions ici, des sanctions là, ben à un moment donné, moi, je les perds. Là. J'essaie de les motiver à faire un effort pour bien se comporter puis respecter les autres. Puis, ils perdent des points sur leur système d'émulation parce que... écoute, j'ai un petit bonhomme qui a perdu des points sur son système d'émulation parce qu'il a enlevé sa chaussure en classe et son bas parce qu'il y avait quelque chose qui le gratouillait entre deux orteils. Ils ont dit, « Hey, c'était pas le moment d'enlever ta chaussure. Ben il a perdu des points. » Là, je me dis, « Caroline, comment je fais pour motiver cet enfant-là, moi, à aller à l'école puis à faire l'effort de bien se comporter quand, de toute façon, il va être pris en défaut? »
Il y a beaucoup de gens qui réagissent, puis j'espère que ça va amener une réflexion globale, même des parents qui sont surprotecteurs, qui sont peut-être la cause de ces nouveaux problèmes-là. On a notre ami Dom Gauthier qui a réagi très, très fort sur les réseaux sociaux. Lui qui fait
coach
la promotion de l'activité physique puis de la compétition. Lui, il n'en revient pas, là. Il dit, je capote. Il dit, on se plaint que les enfants sont tout le temps sur le cellulaire, mais on les empêche de faire quoi que ce soit d'autre.
Ah oui.
Tu sais, c'est paradoxal, là.
Écoute, j'ai une école où je suis allée, là, il y a quelques années, la seule chose que les enfants avaient le droit de faire dans la cour de récréation, c'était il y avait des pelles. Et ils pouvaient faire des trous avec les pelles. Ben Boswell, ils ont perdu les pelles parce qu'il y a un des enfants qui a donné un coup de pelle à un autre. Tous les enfants ont perdu les pelles. Puis là, j'essaie de demander à la direction, je dis, mais là, les enfants ont le droit de faire quoi? Tu sais, j'avais deux, trois petits clients dans cette école-là qui avaient justement des problèmes d'agitation en classe. Ils ont le droit de faire quoi? Ben ils ont le droit de marcher. C'est déjà beaucoup.
Ils peuvent discuter.
Hey, mais là, tu sais, des petites filles, là, ça se peut, ça. S'installer d'un coin de la cour de récré puis placoter peu tout en dansant. Mais des petits garçons, ça a besoin de bouger, de s'ébattre, de grouiller, de chamailler. Et là, on les restreint là-dedans, puis même on les sanctionne s'ils le font. Fait que, tu sais, c'est pas juste interdit, là. Ils vont être punis s'ils le font. S'ils répondent à leurs besoins, ça fait juste pas de sens.
Nancy, réflexion d'un auditeur, puis je veux t'entendre là-dessus. Il dit, ce que vous oubliez, c'est qu'il y a des parents qui sont dans les conseils d'école, qui décident de beaucoup de choses. Devine qui sont les parents qui se présentent dans les conseils. Est-ce que c'est toujours le même genre de parents qui s'impliquent et qui prennent les décisions pour une majorité de parents qui devraient s'impliquer plus quand ils écoutent la radio, puis qu'ils nous écoutent jaser, puis qu'ils sont fâchés quand ils entendent des affaires de main? Est-ce que ça fait partie du problème?
C'est sûr que moi, si j'étais un parent surprotecteur et un parent qui est dans le surcontrôle et qui a besoin de tout gérer, la première affaire que je ferais, ce serait de me présenter au conseil d'établissement.
Au conseil, voilà.
Tu sais, je veux dire, je pense que pas juste ceux-là, mais et si j'étais un parent surprotecteur et surcontrôlant et que j'étais au conseil d'établissement, bien, c'est sûr que je serais la première à lever le ton puis à mettre mon poing sur la table pour dire, hey, ça prend plus de règles. On a juste à parler des fois, on parle de règles, mais on fait juste parler des fois de certaines écoles qui ont diminué ou enlevé les devoirs pour les élèves.
Oui.
Et tu as des parents qui montent aux barricades en disant, ben voyons, mon enfant va avoir des déficits, il va avoir des problèmes. Fait que oui, il y a beaucoup de parents qui sont trop là-dedans dans le contrôle, mais il n'y a pas juste les parents. T'sais, je pense qu'il faut oser remettre en question aussi les intervenants scolaires. Je trouve que là, c'est facile. On dit tout, ah oui, c'est la faute des méchants parents. Ouais, mais attends un petit peu. Il y a des profs et il y a des conseils d'école.
D'établissement?
Non, je ne parlais pas de conseil d'établissement. C'est moi qui ai dit le mauvais mot, là, mais il y a des équipes écoles qui choisissent de mettre en place des règles pour se faciliter la vie parce que, bon, ils sont débordés, ils sont fatigués, puis ils en ont bien à gérer, puis je comprends. Là,
mais
qui n'ont
bon
juste
domaine.
Pas de sens. Hein?
Tu n'es peut-être juste pas dans le bon domaine à ce moment-là. C'est comme les gens qui travaillent en garderie. Si tu n'es pas faite pour surveiller 6 petits poulets en plein développement qui hurlent, qui crient partout, puis qui se tapent
dessus, c'est ça.
Change de job.
Exact. Tu sais, sur mes textes, il y en a quelques-uns qui ont réagi et en disant « Hey, tu sais pas ce que c'est de gérer un groupe de 24 enfants qui parlent fort sur l'heure du midi. Le nombre de décibels, c'est fatigant. » Ben oui, je le sais. Je l'ai faite. Et oui, c'est fatigant. Puis oui, quand on sort dehors, ma foi que ça fait du bien. Mais tarbinouches, ils en ont besoin.
Oui.
Tu sais, puis au-delà de ça, on rajoute à ça, tu sais, bon, dans les services de garde, beaucoup de personnel non formé. Tu sais, Ginette coiffeuse, là, elle peut décider qu'elle s'en va travailler dans un service de garde demain avec zéro formation, là.
Puis on travaille pas pour la solution. Je pense qu'on fait grandir le problème. Puis je vais prendre une analogie que j'utilise souvent. Les Ontariens de 18 ans qui viennent passer leur relâche à Québec, qui n'ont pas abri à boire.
Exact.
Ils arrivent ici, c'est le festival du coma éthylique pendant une semaine. Ils se font arrêter par les polices.
Exactement.
Ils se promènent d'un hôtel à l'autre nu-pied. C'est le free-for-all. Ils n'ont pas appris à vivre avec ça. Ils n'ont pas appris à gérer leurs excès. Ils n'ont pas appris... Chez les jeunes... Écoute, moi, il est arrivé quelque chose qui m'a brisé le cœur la semaine passée. Ils ont amené des jeunes de sixième année voir l'exposition Titanic au musée. Moi, mon kid, là, ça fait longtemps qu'il voulait y aller à Titanic, puis là, il y avait l'opportunité d'y aller. On a reçu un courriel la semaine suivante, cette semaine, pour nous expliquer que pendant la sortie au Titanic, il y avait des trucs d'exposition qui avaient été brisés. Le système d'alarme avait été déclenché. Il y en a qui s'étaient poussés, il y en a qui s'étaient battus, ça courait partout, puis ainsi de suite. Moi, j'ai eu de la peine parce que je me disais, bon, premièrement, j'espère que mon kid ne fait pas partie de ceux qui ont foutu le bordel. Deuxièmement, la réflexion de l'école, c'est de dire, ben des sorties de même, on pense qu'on n'en fera plus.
Voilà.
Puis là, je me dis, ben si ça sort là, c'est que ça sort pas ailleurs. Tu sais, ils ont pas appris à gérer le fun, ils ont pas appris à gérer leurs excès. Fait que là, whoop, t'es change d'environnement, puis ils viennent fou, comme si tous les enfants étaient devenus en un claquement de doigts TDA ou TDAH.
Ben, c'est un des risques majeurs, c'est qu'à force de restreindre, puis c'est la solution facile, hein, on va être dans le contrôle. OK, ben là, ils se sont mal comportés, mais on n'en fera plus de sortie.
Ouais.
Ben, la fois où ils vont sortir, ils vont devenir encore plus dingues, tu comprends? Alors, à force de restreindre à un moment donné, un, effectivement, les enfants n'apprennent pas les règles du vivre ensemble, ils n'apprennent pas à dépenser leur fou, mais de façon adaptée. Puis là, ben, quand effectivement, ils ont un petit peu de lousse, ça sort n'importe comment. Et là, les gens ne réalisent pas non plus qu'à tout le temps contrôler les jeunes, bien, ils sont tout le temps frustrés, sont tout le temps aussi sous stress, ce qui va amener beaucoup plus de débordements émotifs.
Ouais.
Fait que, tu sais, dernièrement, là, dans les dernières semaines, il y a sorti dans les médias le nombre de cas de violence et de gestes agressifs dans les écoles. C'est pas la seule cause, mais une des causes, c'est le surcontrôle. Moi, ma spécialité dans la vie, c'est les troubles d'opposition et les troubles de comportement. Et un des facteurs de risque documentés, c'est le surcontrôle. Quand un jeune évolue dans un milieu où qui est trop coercitif, ben à un moment donné, il accumule et il explose. Et il apprend pas à se réguler. Donc, ça, c'est un des facteurs de risque par rapport à l'agressivité. Puis, on parle aussi d'enfants anxieux. Bien, il y a de plus en plus d'enfants anxieux, mais si on est tout le temps en train de les surprotéger partout, en
anxieux,
train de les contraindre partout, on leur renvoie l'image que le monde est dangereux.
Comment on fait pour partir la tendance inverse? Faut que le leadership, il parte de qui? C'est-tu les directions d'école? C'est-tu les anciennes commissions scolaires? C'est-tu un ministre de l'Éducation? C'est-tu des parents qui doivent s'impliquer pour essayer de créer un contrepoids ou un contrebalance? C'est à partir de où là, qu'on
ça
change
sera pas
cette
évident.
Tendance-là? Non,
moi,
hein?
Je pense qu'il y a une partie... Il y a plein de d'endroits où ça doit partir. Moi, je pense qu'effectivement, un des problèmes, c'est que les écoles, présentement, sont complètement débordées. On a rentré dans les classes régulières un paquet d'enfants en troubles de comportement, un paquet d'enfants à besoins particuliers.
Ah, c'est tough! Là.
Et là, les profs, ils arrivent juste plus. Tu sais, fait qu'à un moment donné, il voudrait bien probablement faire un peu d'éducation, là, tu sais, mais il n'y arrive pas. Puis, tu sais, le nombre d'enfants en troubles de comportement dans les écoles, ça a explosé. Fait qu'à un moment, tu sais, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir plus d'effectifs. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut arrêter d'imposer aux enfants... aux profs de toujours prendre des enfants à besoins particuliers et peut-être avoir des programmes spéciaux.
Oui.
Qu'est-ce qu'il faut? Qu'il y ait davantage d'éducateurs spécialisés dans les écoles pour soutenir les profs, encadrer les élèves, puis que les éducateurs spécialisés ne servent pas juste de pompiers. Moi, quand je travaillais en milieu scolaire, j'ai dit ça, on était pompiers, on faisait juste éteindre des feux, mais ils ne nous donnaient aucun temps pour faire de l'éducation avec nos jeunes.
Je lance une réflexion comme ça. On a compris au fil des années que les programmes spéciaux d'études, ça faisait du bien. Quelqu'un qui a besoin du sport pour se motiver par les études, quelqu'un qui a besoin des arts, de créer de la technologie, ça se peut aussi qu'il y ait du monde qui soit capable de fonctionner d'une classe de 30. Mais il y en a d'autres que passé 5 sont pas capables.
Ben oui.
Puis c'est pas qu'un est pire que l'autre ou que l'autre a des problèmes. Non, il y en a qui sont mieux fonctionner d'une classe de 5, il y en a qui sont capables ou mieux de fonctionner d'une classe de 30.
Ça, c'est un des aspects, tout à fait. Puis tu sais, il faut prendre le temps d'enseigner aux enfants les habiletés, les compétences dont ils ont besoin pour agir en société. Et ça, mais tu sais, les éducateurs spécialisés, ils n'ont pas le temps parce qu'ils ne sont pas payés pour le faire.
Est-ce que les parents se sont désengagés de ça un peu aussi à
en
la
partie,
maison?
En partie, je pense que...
Les deux travaillent, on a moins de temps.
Exact. Puis bon, ben tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont perdues. Ça, c'est peut-être ma job de faire de l'éducation parentale à ce niveau-là. Mais justement, question budget, ben je pense que chaque école ou chaque commission scolaire devrait avoir une école des parents. Tu sais, dernièrement, le gouvernement là, a coupé les budgets au niveau de la formation pour le personnel scolaire et pour les commissions scolaires au niveau de la formation. Ben ça fait pas de sens. Fait que tu sais, moi, les budgets avec lesquels les écoles me payaient pour donner de la formation aux parents sur l'encadrement, sur la fermeté bienveillante, bien, ont été coupés. Fait que, tu sais, le personnel a besoin de formation sur la gestion des comportements, les parents aussi. Fait que, tu sais, c'est plate, mais ça va prendre des sous pour ça. Fait que, par où on commence? Bien, par réinjecter de l'argent.
Bien, OK, petite note d'encouragement, parce qu'on sait comment ça marche. Puis, Nancy, je pense que tu le sais aussi, de quoi on parle au fait? Les sujets d'actualité les plus frais. Là, on s'en va aux fêtes, on s'en va jaser. Les histoires de buttes de neige, là, ça va se jaser dans toutes les familles au Québec. Tout le monde va parler de ses écoles, puis on va comparer, puis ça va jaser. À partir du moment où on en jase, normalement, c'est quelque chose qui va progresser, c'est quelque chose qui va faire son chemin. Peut-être que le timing du fait que tout pète à une semaine de Noël... Ça va faire en sorte que ça va tellement se parler dans les familles que les discussions vont aller plus loin, que ça va amener de la pression dans les écoles. Il y a peut-être des députés aussi qui vont revenir à la job en 2026 puis qui vont dire
«
Hey, on a des élections à gagner, mais je suis fait parler de ça pendant tout le temps des fêtes. » On a peut-être un peu d'espoir sur... Le timing de ces histoires-là, j'espère.
Moi, ma crainte, c'est l'inverse. Ma crainte, que ben, la bulle passe puis que quand on arrive en janvier, on revienne où est-ce qu'on était.
Avec des buts de trois pieds.
Puis moi, je trouve aussi qu'une autre solution, c'est que les centres de services scolaires devraient faire le tour des écoles puis regarder c'est quoi les codes de vie et s'asseoir avec les équipes écoles puis regarder, ben, tu sais, est-ce que vos règles sont excessives ou pas?
Ça n'a pas de bon
sens. Ils sont
tout
le temps justifiés, là, les règles. À chaque fois que j'ai mis en doute une règle, les gens avaient la justification. Oui, mais c'est-tu vraiment nécessaire?
Ouais.
Est-ce que ça respecte le développement de l'enfant? Est-ce que ça va vraiment les aider en bout de ligne? Ou bien est-ce qu'on est en train de mettre un plaster sur un bobo qui est infecté? Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire? Donc, je pense que toutes les écoles devraient se questionner sur la quantité puis la pertinence des règles.
SOS Nancy, Nancy Doyon, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
Nancy Doyon, coach familial, vous irez lire le post au complet qui fait énormément réagir. Ça vaut au moins une lecture et à tout le moins une réflexion.
Hey, joyeuse fête, tout le monde.
Hey, joyeuse fête à toi aussi.
Profites-en bien.
Puis on se reparle pour le gravel du temps des fêtes.
Cool!
15h56 à Boulevard, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a démissionné en milieu d'après-midi.
Toujours pas de réaction de François Legault, qui actuellement est en rencontre virtuelle avec le premier ministre du Canada et les premiers ministres des provinces et territoires, mais il y aurait eu une rencontre cet après-midi, selon TVA, entre Christian Dubé et François Legault.
Avant les annonces, évidemment. On en reparle en faisant le tour des nouvelles. Tantôt, 88 971 1021, c'est Gravel dans le retour à Boulevard. Gravel!